Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, ta parole est extraordinaire. Tu nous as parlé encore ce matin. Tu nous rappelles encore une fois que tant qu'on est dans ce corps, ce sera une lutte permanente jusqu'au bout. Et c'est après la dernière libération, c'est-à-dire après qu'on aura quitté ce corps, c'est là que nous atteindrons cette liberté totale, cette perfection qu'on peut trouver qu'en toi. Aide-nous à supporter les douleurs de cette vie terrestre et que ces douleurs, au lieu de nous éloigner de toi, nous rapprochent encore plus de toi. Aide-nous à tenir jusqu'au bout parce que de nous-mêmes, par expérience, et l'âge nous le montre, c'est que quand on va sur nous, nous nous éloignons de toi. Dans notre chair, il n'y a que des fêtes, mais tout est en toi. Aide-nous à nous désaxer de nous et nous appuyer sur toi, toi qui as vécu toutes ces choses-là. Et merci pour ta parole encore, tu vas partager avec nous. Je te prie, Seigneur, que ces paroles s'adressent à mes frères, mes sœurs, à moi-même, selon ta volonté, qu'à chacun tu puisses parler selon la mesure que tu désires. Merci par avance et que ta volonté se fasse. Amen. Alors nous continuons l'exploration, le voyage que Marc nous propose à travers son évangile. Et la dernière fois, donc, j'ai évoqué les versets 9 et 10 du chapitre 1. Et on est resté sur la première phrase. Parce que, voilà, en préparant la dernière fois le message, je suis resté sur cette première, où le Seigneur parle aussi à travers son parcours. Souvent, on a tendance, des fois, on dit, tiens, je veux apprendre, je veux que la parole, quand je lis la Bible me parle, et on se limite à des mots. Alors que même, le parcours même du Seigneur, c'est-à-dire tout ce qu'il fait, juste le fait qu'il dise, je pars de Nazareth pour aller vers le Jourdain, juste cette décision-là, est un message pour l'Église, puisque Christ est l'Église. Il est parti d'un endroit où il était délaissé, Nazareth, Galilée. Dans la culture hébraïque, c'était une région, on dit, c'est des ploucs, comme on dit aujourd'hui. Oh, ils ne valent rien, ces gens-là. D'ailleurs, la parole nous dit que, est-ce qu'il y a quelque chose de bien sur Nazareth? Oui. Et pourtant, c'est de là que le Seigneur est parti pour le baptême, pour le Jourdain. Et le Seigneur n'a rien fait d'autre que de s'identifier à notre vie. Quand on a rencontré, on est allé à la rencontre du Seigneur, il est venu nous rejoindre dans notre enfer, on veut dire. Et il nous a sortis de là pour qu'on aille le rejoindre et nous faire découvrir ce que c'est que sa mort et sa résurrection. Quelle implication cette mort et sa résurrection dans ma vie? C'est le signe du jour. Mais aujourd'hui, on va avancer. Donc là, on va avancer un peu parce que sinon, on va rester sur place. J'ai discuté avec mon frère Toby. Et on arrive à la conclusion, mais il faut bien avancer. Parce que là, on fait du surplace. Alors, on a pris une bonne décision, mardi dernier. On a dit, ben, maintenant, il faut avancer avec Marc. Mais écoute, il me dit, moi, j'ai un message, mais je voudrais bien évoquer à partir du verset 16. Et toi, Abdel, tu es encore 9 ans, il faut bien avancer. Donc, on s'est mis d'accord. Ben, écoute, Toby, ben, d'accord. Donc, écoute, la prochaine fois, je ferai les versets 9 à 14. Et toi, comme ça, après, comme ça, ça ne te fait pas trop loin, tu vas évoquer le 16. Alors, je suis avec la bonne volonté, je suis parti, j'ai commencé hier. Mais je n'ai pas dépassé 11. Alors, tout gêné ce matin quand il est arrivé dans la cuisine, mais je dis, Toby, excuse-moi, mais notre accord tombe à l'eau. Mais que voulez-vous? Et là, on va évoquer le verset 9 à 11. Marc 1, verset 9 à 11. Ça ne sera pas trop long, mais je pense que c'est très parlant. Je précise encore une fois que ce que j'apporte ce matin, vous pouvez faire mieux. Et j'en suis sûr que vous allez pouvoir, ces paroles, vous pouvez les lire différemment. C'est pour ça, quand il y a le partage le premier dimanche du mois, ça serait très intéressant et très bénéfique pour l'Église. Si vous, par exemple, vous prenez quelques passages, vous partagez avec nous. Le Seigneur peut parler à travers vous. Donc il y a beaucoup de subjectivité, ce que je vais faire, tout en espérant que le Seigneur transforme cette subjectivité en quelque chose qui nous parle à notre cœur. Donc restons humbles, il n'y a pas la personne qui est devant vous qui est en train de vous enseigner quoi que ce soit, mais ce que j'ai compris, je le partage avec vous. Mais ça ne veut pas dire que c'est ce que vous recevez dans votre cœur. Certainement, vous allez recevoir différemment et peut-être vous pouvez nous enseigner mieux encore. Mais avant de commencer, juste deux petites remarques ce matin, juste en complément de ce qui était dit. Parce que si je ne le dis pas, donc je serai en désaccord avec moi-même, avec ce que je conçois de l'unité des chrétiens. Alors quand j'entends ce matin, et je comprends le message derrière, parce que je sais que c'est notre frère, on est plus loin que ça. Quand il dit il faut chercher l'unité, je suis désolé. L'Église, on n'a pas à chercher l'unité, mais ça ne va pas, non? Pourquoi chercher l'unité? Parce qu'elle y est déjà. Chercher l'unité, c'est qu'on ne se rend pas compte que Christ est l'unité. Donc l'unité y est. Pour moi, c'est manifester l'unité plutôt qu'il faut chercher. Parce que chercher l'unité, c'est qu'on n'a pas trouvé Christ. Puisque c'est en lui que nous sommes unis. L'unité, c'est en lui seul. Donc c'est pour ça que j'apporte, je peux me tromper, mais c'est ma conviction personnelle qui complète. C'est qu'en fait, quand on commence à chercher l'unité, c'est quelque part, inconsciemment, on se rend compte que peut-être, on ne connaît pas le Christ, parce qu'en lui, il y a l'unité. Deuxième réflexion, je suis en train de poser des sujets de discussion mardi. Comme ça, au moins, les sujets. Deuxième, l'Église parfaite n'existe pas. Si qu'elle existe, c'est Christ. L'Église, c'est Christ. Mais par contre, si on parle de communauté avec nos défauts, oui, elle n'existe pas, cette Église parfaite. Dans notre vie de tous les jours, on n'est pas parfait. Tant qu'on est dans ce corps, on n'est pas parfait. Tant qu'on est dans ce monde, on n'est pas parfait. Mais le seul qui est parfait, c'est Christ. Donc si on prend Christ en tant qu'Église, il est parfait. Mais si on prend l'Église en tant que vie communautaire, avec nos défauts, tout ça, on n'est pas parfait. Je voulais juste apporter ces quelques réflexions. Ça nous permet peut-être dimanche de partage, discuter autour de ces choses-là. Et ça permet aussi d'ouvrir un débat. Je suis toujours à la recherche de débats parce qu'on s'enrichit tout le temps. Revenons maintenant à l'évangile de Marc, chapitre 1, verset 9-11, et je le lis. « En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Il y a tellement de choses à partager là-dedans, c'est tellement riche qu'on peut faire, chaque mot on peut faire en fait un message. Mais si je dois résumer tout ça, je peux dire que ces paroles s'adressent à l'Église. Dieu est en train de nous dire, à l'Église, en tant que corps du Seigneur, à chacun de nous, est en train de dire, « Tu es ma fille, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Si nous reconnaissons que nous sommes en communion avec le Seigneur et l'Église c'est Christ, ces paroles s'adressent à nous. La question qui se pose, est-ce qu'on en est conscient ou est-ce qu'on est digne d'être considéré comme la fille ou le fils de Dieu? Quand on se rend compte que nous sommes la fille et le fils de Dieu et Dieu nous considère comme ça, on se comporte différemment. Au moins par respect pour le Père. Souvent les enfants le font. Inès, quand elle avait fait de la musique, j'ai appris un an après, « Papa, je l'ai fait pour te faire plaisir. » Et oui, et c'est exactement nous. Si le Père, Dieu nous dit, « Tu es ma fille, tu es mon fils. » J'ai envie de dire, comme je dis aux étudiants, au moins faisons semblant. Parce que je vois que dans le monde chrétien, on fait même plus semblant maintenant. On vit dans le monde comme le monde et on se dit chrétien. C'est encore pire. On n'arrive même plus à faire semblant. Bien que nous ne sommes pas appelés à faire semblant, bien entendu. Il faut être sincère dans son cœur. Mais j'ai déjà donné la conclusion là, de ce que j'allais dire. Et c'est très bien de commencer tout de suite par là. Dieu s'adresse à nous. Nous sommes ses fils et ses filles. Il n'y a pas d'autre grand... Quel privilège nous voulons de plus? Puisque Dieu est au ciel et est en train de dire, Abdel, tu es mon fils. Raymond, tu es ma fille. Mais vous vous rendez compte, en fait, c'est tellement grand, les mots ne suffisent pas pour les décrire. Donc, dans notre passage, nous avons vu que Jésus a décidé d'aller vers le Jourdain. pour se faire baptiser par Jean-Baptiste. Les quatre évangiles évoquent ce départ vers le Jourdain pour nous dire que le baptême, ce n'est pas une option, je l'ai dit, je le répète, etc. Ne prenons pas les choses à la légère, nous suivons le chemin du Seigneur et nous le ferons baptiser. Mais au-delà du baptême, il y a le sens qui est derrière. Pourquoi Jésus est allé vers Jean-Baptiste? Pourquoi il a décidé d'y aller? La première chose, c'est l'obéissance. Jésus obéit à son Père, mais obéissons à la parole. Pourquoi je dois me dire pourquoi, etc. Le baptême, est-ce que c'est sûr? Obéissons à la parole de Dieu. Le Fils nous donne l'exemple. Il a obéi. Marc nous dit que Jésus vint de Nazareth en Galilée pour se faire baptiser par Jean dans le Jourdain. Le Seigneur Jésus ne demanda pas à Jean d'aller jusqu'à lui pour le baptiser, mais non, l'humilité. Encore une fois, l'obéissance et l'humilité a fait que Jésus a décidé d'aller vers Jean, aller vers les autres. C'est le service, encore une fois. Quand il allait être baptisé, il s'est lui-même placé entre les pécheurs. Voilà encore l'humilité et l'amour de Dieu. Il n'est pas resté dans son monde. Non. Lui, le parfait, il est venu, il a dit non, je vais d'abord, humilité, je vais aller vers Jean-Baptiste, qu'il me baptise, mais en plus, je vais me mélanger avec les pécheurs. Moi qui n'ai pas pécheur, voilà, Seigneur. Vous vous rendez compte, il est allé jusque-là. Il a été placé au milieu des pécheurs, lui qui était complètement sans péché. Il s'est mis au milieu de cette compagnie de pécheurs. Tellement d'informations. Le baptême de Jean était un baptême pour la repentance. Un mot qu'on essaie de gommer dans le milieu chrétien. Et pourtant, c'est le baptême, il est dit, c'est le baptême de la repentance. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de suite. D'abord, la repentance. Et la repentance qui me mène à accueillir le Seigneur dans mon cœur et que je formalise par le baptême, le dépouillement. Ce baptême de repentance était destiné aux pécheurs qui désiraient ardemment au fond de leur cœur de changer de vie. Donc un chrétien qui veut devenir, rester chrétien, suivre le Seigneur, mais tout en disant « je veux continuer à vivre comme dans le monde », mais il ne sait pas ça veut dire la repentance. Qu'avait Jésus à voir avec ce baptême? Il n'avait pas besoin, le Seigneur Jésus. Lui, le Fils de Dieu, le parfait, il n'a pas besoin de baptême. Il était sans péché. De fait, comme dit l'évangile de Matthieu, Jean s'est opposé au début quand Jésus lui avait demandé le baptême. Il s'était opposé. Parce qu'il dit, mais non, tu n'as pas besoin, Seigneur Jésus. C'est moi qui avais besoin. L'obéissance, encore une fois. Alors, si un jour on vous pose la question, le baptême, quel est le sens du baptême, pour le baptême? Même le Fils de Dieu a obéi. Simplement, il peut passer par le baptême des eaux. Pourquoi Jésus s'est-il donc baptisé alors qu'il n'en avait pas besoin? La première réponse, on l'a. Déjà l'obéissance. L'obéissance, c'est la première chose que le Seigneur nous montre dans cette décision. Il est prévu dans son ministère terrestre de passer par le baptême du Jourdain. Donc il passe par le baptême. C'est du Jourdain que commence le ministère public de Jésus. Son lancement public, c'est pas fait non, du Jourdain. C'est là qu'il se montre publiquement. Parce que l'Esprit, il va dire, le Père va dire, c'est mon fils bien-aimé. Donc, la présentation publique, le lancement public de son ministère, c'est fait dans le Jourdain. Et le fait donc que Jésus ne s'est pas dirigé vers les leaders religieux dans le temple, mais vers Jean-Baptiste, confirmé d'une part que Jean était pleinement reconnu comme prophète de Dieu, et d'autre part, marquait dès le début une distance avec la religion officielle de son temps. C'est pas aller voir le curé, le pasteur, je ne sais pas quoi. C'est une décision du cœur qui doit être la première et la plus importante. Mais la raison la plus importante, sans doute, pour laquelle Jésus était descendu dans les eaux avec le peuple pécheur, c'était pour s'identifier avec ce peuple pécheur. Anticipant de cette manière le moment, il devait être livré comme offrande pour le péché. Je viens vous annoncer, je m'identifie à vous, en rentrant dans l'eau et sortir avec ce geste-là d'obéissance à Dieu, qui est un message spirituel, mais je vais aller jusqu'au bout. Je vais le concrétiser en mourant à votre place, sur une croix. Jésus, le seul homme saint et innocent, s'est présenté comme représentant de tous les pécheurs, comme le prophète Isaïe l'avait annoncé. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Nous pouvons donc dire que c'était le premier pas d'un chemin qui le conduirait jusqu'à la croix. Le baptême allait vers la croix. Donc quand on se fait baptiser dans l'eau, il y a un sens spirituel. C'est un engagement, mais ce n'est que le début de quelque chose qui mène vers la mort à soi-même. C'est-à-dire, je proclame par le baptême que je n'appartiens plus à ce monde et au diable, mais que j'appartiens maintenant à Dieu. Je m'engage que je veux changer de vie. Je veux faire de la mort du Seigneur ma mort et sa résurrection ma résurrection. Et ce témoignage-là, je le fais devant les puissances célestes, devant Dieu, devant les hommes, devant soi-même. Et là, maintenant, la vie chrétienne commence. Et la croix est toujours un objectif, c'est-à-dire, il y a cette transformation qui se fait. Donc dire, et c'est pour ça notre désaccord l'année dernière, avec nos frères chrétiens, je dirais d'un autre courant, bien que je n'aime pas dire les courants, c'est que le baptême ne sauve pas. Ce n'est pas le baptême qui sauve, c'est Christ. Jésus est oint par le Saint-Esprit. Dans ce passage, nous voyons que l'Esprit descend sur le Seigneur. Mais quand on lit ça, on a l'impression que le Seigneur n'avait pas l'Esprit alors. Alors que si. Le fait que le Saint-Esprit descendait sur le Seigneur Jésus durant son baptême n'implique pas qu'il ne l'avait pas déjà avant ce moment. Oui, on peut dire. Pas du tout. Si Jean-Baptiste avait reçu le Saint-Esprit, et on était rempli depuis le sein de sa mère. Car il sera grand, on parle de Jean-Baptiste, car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit-Saint. Dès le sein de sa mère, Jean-Baptiste avait déjà le Saint-Esprit dans le ventre de sa mère. Comment le Seigneur ne l'avait pas avant le baptême? Vous voyez? Combien plus le Seigneur Jésus qui fut engendré par le Saint-Esprit devait l'être? Comme il est pensé, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Donc on ne peut pas dire que le Seigneur n'avait pas l'Esprit Saint dans le baptême. Et là j'ai lu Matthieu 1, 20. En cette occasion, le Saint-Esprit descendu sur lui dans le Jourdain pour le oindre pour la mission qu'il était venu réaliser. Rappelons que dans les temps de l'Ancien Testament, on oignait les rois et les sacrificateurs en versant de l'huile sur leur tête et on les recommandait à la fonction et au ministère qu'ils devaient servir. Et nous pouvons dire que lorsqu'il avait été oint, notre Seigneur Jésus-Christ, il commença son ministère publiquement avec l'adhésion du Père. C'est la signature du Père. Là. Il est en train de dire, c'est mon fils bien-aimé, il commence son ministère, voilà ma signature, l'Esprit va sur lui. C'est d'ailleurs l'interprétation que fait l'apôtre Paul dans les Actes des Apôtres, verset 10, chapitre 10, versets 37 et 38. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth. La signature du Père. Donc quand il y a un ministère, quand il y a un appel, il faut toujours la signature de Dieu. Souvent on attribue à l'homme beaucoup de choses, mais la question, où est-ce qu'est la signature de Dieu ? la signature de Dieu? C'est l'Esprit Saint. S'il n'y a pas cette signature, vous pouvez dire ce que vous voulez. Il faut en être innocent. Quand le Seigneur envoie, confirme la signature par l'Esprit Saint. Confirmation chez la personne, confirmation dans sa communauté, confirmation qui certifie que Dieu bien est à l'origine. Et voilà que le Saint-Esprit descendit sur Jésus comme une colombe. Quand on s'est marié, on a mis une colombe. Souvent, quand on, voilà, sur la carte, et souvent on met la colombe, la paix, l'amour, tout ce qu'on veut. L'Esprit Saint est représenté souvent comme une colombe. Souvent, on dit c'est pour faire penser à la pureté, à la bonté, à la sérénité, à la grâce, comme trait caractéristique qui identifie le Saint-Esprit. L'opinion publique, comme dans les Écritures, associe ces qualités avec la colombe. Donc, je vais prendre quelques passages. Il faut toujours revenir à la parole de Dieu pour expliquer la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la Bible, sur la colombe? Alors, c'est dans le psaume, par exemple, psaume 68, 13, je lis. « Tandis que vous reposez au milieu des épaves, les ailes de la colombe sont couvertes d'argent et son plumage est d'un jaune d'or. » Il y a même la royauté là-dedans, dans la colombe. Dans Matthieu, chapitre 10, verset 16, je lis « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme les colombes. » L'humilité et la simplicité. En fait, on est en train de parler du caractéristique des chrétiens qui a reçu l'Esprit Saint, en fait. La simplicité. On est en Christ, nous avons tout en Christ. Dans l'Ancien Testament, la colombe vient apporter à Noé la bonne nouvelle de la réconciliation entre Dieu et les humains. Les eaux s'étant retirées, Noé décide de construire un autel à Dieu qu'il honore par des offrandes. Dieu jure alors de ne plus maudire la terre, mais au contraire de soutenir sa création. Nous allons lire ce passage aussi. Genèse chapitre 8, verset 8 à 12. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit, et la fit entrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 jours. Il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir, et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Et il attendit encore 7 jours, 7 autres jours, et il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. Donc, il dit, hop, je suis sauvé. Mais cette histoire-là, rappelons-nous, c'est le chemin de tout chrétien. Je me convertis, je me bats. Seigneur, viens habiter dans mon cœur. Je le veux. Mais je continue ma vie. Mais c'est un débat. C'est pas possible. Alors le Seigneur est patient, il vient vers moi, il parle l'Esprit Saint. Et cette lutte qui se fait entre nous avec l'Esprit Saint, jusqu'au bout, quand j'ai compris que Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi. Là, ça montre encore la patience de Dieu. La colombe, c'est la patience de Dieu. Ça veut dire en fait, il vient pas, tu veux pas, au revoir. Non, il est tellement patient le Seigneur avec son Esprit, il vient tout le temps. C'est exactement ce qui se passe avec Noël, avec Noé. Il attend la délivrance, l'Esprit vient vers lui et il repart. En fait, avec l'Esprit Saint, c'est un cheminement. Le Seigneur est tellement patient. Dans l'Ancien Testament, l'Éternel se présentait comme un aigle. Je vous invite à lire Exode chapitre 9, verset 4, ou Deutéronome chapitre 32, verset 11. Il se présente comme un oiseau de chasse, avec de grands pouvoirs, pour protéger son peuple contre les ennemis. Ça, c'est l'Ancien Testament. Mais dans l'Évangile, il prend la forme d'un agneau. Vous voyez encore? Ce Jésus qui est parti de Nazareth pour le Jourdain. Aller se mêler aux pécheurs, obéir au Père et payer le prix. Il prend l'exemple d'une poule protectrice. On n'est plus dans l'aigle, là. Et bien entendu, cette poule protectrice qui protège ses poussins que nous le sommes, nous les chrétiens, c'est aussi une colombe. Dans ce passage, il nous est dit que les cieux s'ouvrirent. Et le Père parle à son Fils. Il est écrit dans l'Écriture que les cieux se déchirèrent, littéralement divisés en deux. C'est le même mot que les évangélistes utilisent pour décrire ce qui arriva plus tard avec le voile du temple, connaissant l'histoire. Matthieu 27, 51. Jésus poussa de nouveau un grand cri. On est dans la croix. Le Seigneur, là, il a payé le prix. Il est sur le bord. Il va mourir. Il rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. En fait, quand les cieux se déchirèrent et le Père parle à son Fils, en déchirant les ciels, il avait déjà vu la mort de son Fils sur la croix. Quand le ciel s'est déchiré, le Père, parce qu'il n'y a pas de temps chez lui, il n'y a pas de durée, tout est devant lui, il a déjà vu son Fils mourir. Dans Marc, chapitre 15, verset 33, le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. Et le temple, c'est la demeure du Père, la demeure de Dieu. Dans Luc, chapitre 23, verset 45, le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. De fait, déchirer un vêtement signifie l'ouvrir, et pour les orientaux, le ciel était une tente où l'Éternel Dieu habitait. Comme le montre l'image que nous trouvons dans Ésaïe, verset 40, chapitre 40, verset 22. Celui qui est assis au-dessus du cercle de la terre et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère. Il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. Et qui dit tente, dit quelque chose qui va disparaître pour laisser l'éternité. Et là, c'est du solide. Pour une première fois, depuis l'innocence d'Adam, on trouvait un homme sans péché sur la terre et donc il n'y avait plus d'obstacle entre lui et le ciel. Qui dit pas lui d'obstacle entre lui et le ciel ? Plus d'obstacle entre l'Église et le ciel. Donc, plus d'obstacle entre nous et le ciel. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'était l'accomplissement de la prière et la supplication du prophète Ésaïe quand il disait « Oh, si tu déchirais les cieux, si tu descendais. » C'est ce qui s'est passé. Sa demande se basait sur le fait que le ciel fermé était un signe de la colère de Dieu contre l'humanité pécheresse. Oui, quand le ciel était fermé, dans l'Ancien Testament, dans la culture orientale, c'est que Dieu il n'y a pas de relation avec lui. Et on prendra juste, il y en a tellement de passages par rapport à cela, je vais prendre juste un seul. Dans 1 Roi, chapitre 8, verset 35. Exauce-les des cieux, pardonne le péché de ton peuple Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à leur père. Quand le ciel sera fermé, voyez, quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie, à cause de quoi ? À cause de leur péché contre toi. Vous comprenez l'importance de la repentance. Sans repentance, on ne peut pas réaliser ce ciel qui se déchire et qu'il y ait cet accès libre entre nous et Dieu. Le péché, c'est ce qui nous empêche. C'est ce qui nous empêche. Mais tant que l'Église ne se rend pas compte de cela, ce qui empêche notre communion avec le Père, avec le ciel, c'est le péché. Et tant qu'il n'y a pas cette repentance-là, il ne peut pas y avoir cet accès. Et pour qu'il y ait cet accès, c'est déjà prêt. Le chemin est déjà prêt. C'est Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. La voix du Père qui s'adresse au Fils et qui lui dit « Tu es mon Fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. » Il n'a pas dit « En toi, j'ai mis un peu d'affection. » Il n'y a pas un appel. Non, tout. On ne se rend pas compte. Encore une fois. En Christ, on a tout. Y compris l'affection qui résume tout. Et Dieu s'adresse à son Église à travers son Fils. Comme nous avons déjà vu, Jésus s'est présenté avec les pécheurs pour se faire baptiser. Cependant, il n'était pas un pécheur. Et cela que le Père était venu confirmer depuis les cieux au moyen de cette déclaration. Il montre que Jésus est son fils et tous ceux qui vont s'unir à lui sont ses enfants. Ce n'est pas une religion qui nous sauvera, c'est notre communion, notre recherche du Seigneur Jésus. En même temps, le Dieu le Père proclamait l'amour ineffable et merveilleux qui existait entre le Père et le Fils pour l'éternité, et cet amour qu'il offre à chacun de nous. Il suffit juste de le saisir. C'est déjà là. Juste acceptons-le. Et si on accepte cet amour, on se comporte comme des filles et des fils. Et on ne fera pas ce qu'on veut. En plus d'exprimer cette relation singulière et unique, il annonçait aussi l'approbation du Père de la mission du Fils de chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il parle de nous. Et l'accepter comme le médiateur, le substitutif, le garant d'une nouvelle alliance. C'est sur cette déclaration que l'Église est fondée. Tu es mon fils bien-aimé. L'Église est fondée là-dessus. Tu es mon fils bien-aimé. Il adresse à l'Église, l'Église, tu es ma fille bien-aimée. C'est une déclaration qui nous rappelle celle de Pierre. Celle de Pierre, je ne vais pas le lire entièrement. Et quand Jésus demandait à ses disciples, qui dites-vous que je suis, etc. Et Pierre lui répond, on est dans Matthieu chapitre 16, verset 13 à 18. Et Pierre lui répond, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et contrairement à ce qu'on nous fait croire, y compris l'Église catholique, ils disent maintenant l'Église est fondée sur Pierre, parce qu'il a dit après, verset 18, et moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Alors on oublie que l'Église est fondée pas sur Pierre. Il suffit de lire le passage comme il faut. L'Église est bâtie sur la confession de Pierre. L'Église est fondée sur « Tu es le Christ, Fils de Dieu ». C'est ça l'Église, pas sur une personne. Eh bien, nous sommes des filles et des fils de Dieu parce que nous sommes en communion avec le Fils qui est Jésus-Christ. Quand partirons ce matin, disons-nous, il faut qu'on nous dise ça. Je suis fils de Dieu, je suis fille de Dieu en Christ. Comment dois-je me comporter envers le Père? J'en suis sûr, si on a une conscience, on peut se questionner, s'interroger, j'en suis sûr, on aura une conscience qui nous interpellera. Et l'Esprit qui nous interpellera. La seule chose qu'on aura à faire, pas nous forcer pour nous comporter bien comme il faut, pas du tout, c'est se repentir, se confesser dans l'humilité et la simplicité. Revenir à genoux devant Dieu. Seigneur, Père éternel, je ne me suis pas comporté comme fils ou fille. Aide-moi à me comporter comme fils ou fille. Et ça, c'est l'Esprit Saint qui le fait. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Dans Marc, plus loin, Marc chapitre 9, verset 7, il est écrit, dans l'histoire de la transfiguration, cette voix qui vient du ciel, qui parle aux disciples, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Il le déclare. Mais le plus important, écoutez-le. On oublie le écoutez-le. Celui-ci est bien. Écoutez-le. L'obéissance, encore une fois. Il n'y a pas de vie chrétienne sans obéissance. Écoutez-le. En conclusion, et c'est ça de la parole de Dieu, quand on lit la parole de Dieu, la question qu'il faut se poser, quelles implications pour nous, pour l'Église? La parole est faite aussi pour l'Église, et l'Église c'est Christ. Christ et l'Église. Donc ces paroles s'adressent aussi à l'Église, avec un E majuscule. Donc à chacun de nous, par le biais du Fils unique, Jésus-Christ. Le Père est en train de parler à l'Église par une lettre qui s'appelle son fils. Si nous voulons Dieu, qu'est-ce qu'il veut me dire? Regardez ce qu'il dit au fils. Il le dit à l'Église. Ces paroles sont prononcées après le baptême de repentance. C'est quand il est rentré dans le Jourdain et sorti de l'eau, il est dit, voici mon fils bien-aimé. Donc il le dit à l'Église. Vous voulez que je vous appelle mon fils bien-aimé? Est-ce que vous êtes passé par le baptême de repentance au-delà de l'eau, hein, au-delà du geste dans l'eau? Est-ce que nous sommes passés par cette repentance sincère au dire « J'ai besoin de toi, mon Dieu, je suis perdu. » Sans repentance, Et la repentance peut être quelque chose qu'on vit tous les jours. Hein. Chacun son parcours, hein, son cheminement, sa sincérité du cœur. Sans repentance, il n'y a pas de communion avec le Seigneur, il n'y a pas cette déclaration du Père. Parce qu'on ne la comprendra pas de toute façon. Il n'y a pas de nouvelle naissance sans repentance et donc pas de reconnaissance du Père. Le ciel qui se déchire et l'esprit qui descend depuis... Le ciel qui se déchire et l'esprit qui descend, qui dépend du baptême, de la repentance. Donc le symbole est le baptême d'eau. Et c'est ça le baptême d'eau. C'est un engagement que je fais par rituel, parce que je fais l'habitude, parce que je veux avoir des cadeaux, je ne sais pas quoi. Non, c'est une décision sincère du cœur, je me repens et je le montre à travers le baptême. Une confession sincère devant Dieu, une fois, deux fois, tu peux être même 10 fois, même 50 fois. Tant qu'on est dans ce corps, il y aura des confessions devant Dieu. Une confession sincère devant Dieu de notre vulnérabilité. Et nous ne mentirons pas. Il ne faut pas nous mentir. Tant qu'on est dans ce corps, on est vulnérable. Tant qu'on est dans ce corps, on est vulnérable. Celui qui se croit fort, il n'a rien compris. Tant qu'on est dans ce corps, on est vulnérable. Jusqu'à qu'on quitte ce corps. Donc on a besoin de Dieu et on a besoin de l'Esprit. Une repentance qui nous fait réaliser que nous avons un besoin vital du pardon divin et le savourer. Qui nous est transmis par son Esprit. Nous réalisons alors le poids spirituel de la croix dans notre vie. Et d'un seul coup, la croix revêt, je dirais, un sens spirituel, historique spirituel dans notre vie. À chaque fois, je me remémore ce qu'il a fait le Seigneur et le prix qu'il a payé à ma place quand je demande le pardon. Et la vie en découle par la suite. Rappelons-nous qu'il dit de même, après la mort du Seigneur, que le voile du temple se déchira de haut vers le bas. Le ciel se déchira. Mais se déchira à quel moment? Quand il est sur la croix, il est mort. C'est dans la souffrance, dans la confession, dans l'épreuve profonde, que je vois que je suis perdu. C'est dès ce que le Seigneur dit à la vie, je t'envoie mon esprit et je suis là. Plus nous avançons dans la vie, plus nous nous rendons compte de l'importance vitale du principe, spirituel de la croix dans notre vie. C'est ça, porter sa croix tous les jours. C'est pas quelque chose de négatif. Non, parce que la croix donne la vie. À chaque fois qu'il y a dépouillement, transformation, il y a la restauration, il y a la vie. Sur cette base que nous pouvons traverser les épreuves. C'est ainsi que nous pouvons traverser les épreuves. Repentance, confession, humilité. Dieu me fait sa déclaration à travers son Fils. C'est la signification du baptême. Alors, je peux vivre en tant que chrétien en traversant les épreuves. Et les tentations qui rôdent autour de nous. C'est le chemin que nous montre par la suite le Seigneur. En effet, après le baptême de repentance, suivi de la déclaration d'amour du Père, confirmé la signature du Père par l'Esprit Saint, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait par la suite? Il part vers le désert. C'est notre vie. Voilà, on mène maintenant notre vie. Notre désert. Mais attention, un désert, on est armé. Nous avons la déclaration du Père, la communion avec le Fils, l'Esprit Saint. Alors, normalement, nous sommes armés pour gagner, pas par nous-mêmes, pour gagner par celui qui a vaincu. Et on sait que la suite, dans le désert, le Seigneur a vaincu toutes les tentations du diable, ce qui n'était pas le cas d'Adam. C'est ce qu'on évoquera. Ce qu'on est pour la prochaine fois, pour parler des tentations subies par Seigneur Jésus. Et il a comparé, il est comparé à la tentation d'Adam. Il y a vraiment une similitude. Adam n'avait pas la victoire parce qu'il n'avait pas l'Esprit de Dieu. Contrairement à ce qu'on nous dit, Jésus, le seul qui a vaincu, parce que c'est le Fils de Dieu qui était en communion avec le Père. Que Dieu nous aide.